Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 28 décembre 2020, il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Au sommaire de cette édition, le rapport de la MINUSMA sur les événements du 10 au 13 juillet 2020 à terrain du public ce matin. Ce document indique que 14 personnes ont été tuées et 40 autres ont été blessées par les forces de l'ordre lors de ces manifestations. Une enquête judiciaire a été ouverte ce dimanche à la Gendarmerie nationale pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon le procureur de la République, 6 personnes dont le chroniqueur Aras Batch sont concernés par cette enquête. Sport football, plusieurs dirigeants du football malien ont été sanctionnés depuis le 23 décembre dernier. La décision a été prise par la Fédération malienne de football suite à l'affaire de dopage visant les footballeurs Sékou Keïta et Mohamed Camara. À la présentation, Adama Amadou Haïdara. Bonsoir à tous et bienvenue. 14 morts et 40 blessés, c'est le bilan des manifestations qui ont lieu du 10 au 13 juillet 2020 à Bamako. Ces chiffres ont été révélés dans le rapport de la MINUSMA rendu public aujourd'hui. Cette enquête a porté sur les violations et atteintes aux droits de l'homme commises dans le cadre de ces manifestations. Selon le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, Guillaume Ngifa, une mission spéciale d'établissement des faits avait été déployée par l'organisation du 20 juillet au 17 août dernier, dans le but de faire la lumière sur ces événements. Il est au micro de Khalifa Goïta.
Au terme de la mission d'enquête, la MINUSMA a pu établir que les 10 et 11, 12 et 13 juillet à Bamako, 14 manifestants, tous de sexe masculin, dont 2 enfants ont été tués lors des interventions de forces de maintien de l'ordre, notamment la gendarmerie, la police nationale, la garde nationale et la force spéciale antiterroriste Forsat. Au moins 40 manifestants ont été blessés lors de l'intervention des forces de l'ordre et 118 agents de force de défense et de sécurité ont été blessés du fait d'actes de violence imputables aux manifestants. Les décès ainsi que la plupart des blessures infligées aux manifestants résultent d'un usage disproportionné de la force par les forces de défense et de sécurité maliennes, notamment l'usage des balles réelles. Au moins 200 personnes, dont 6 femmes et 7 enfants, ont été arrêtées et détenues arbitrairement à Bamako.
Si pour certains citoyens, les résultats de cette enquête n'aboutiront jamais à l'arrestation de leurs auteurs et complices, d'autres par contre restent pour le moment confiants. Ces derniers souhaitent que les autorités de la transition permettront à la justice de faire toute la lumière sur ces exécutions sommaires et extrajudiciaires. Écoutons leur réaction. Ils sont au micro de Khalifa Goïta.
En tout cas, moi, j'accorde peu d'importance au rapport de la MINUSMA, quoi. Parce que la MINUSMA vient après. Qu'est-ce qui prouve que réellement, elle a pris en compte toutes les personnes qui sont décédées dans cette histoire-là? En fait, ce qu'ils veulent, souvent, quand ils veulent que quelqu'un soit condamné, ils viennent, ils disent que non, si ça a été fait. Quand ça les arrange pas, ils essaient de mettre le pied là-dessus.
J'ai confiance aux autorités de transition. Je veux que notre justice fasse le travail maximum pour mettre celui qui doit être jugé, soit jugé.
On ne sait même plus parce qu'il y a eu tellement de situations difficiles, des assassinats par-ci, par-là. On dit que les enquêtes sont en cours, mais c'est sans suite. Bon, je crois qu'on doit revoir tout, quoi. On doit revoir tout. Le système judiciaire.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La dépouille de l'ancien chef de file de l'opposition est attendue au Mali le 31 décembre prochain. Soumaïla Cissé sera enterré le 1er janvier 2021. L'information est confirmée par les responsables de son parti URD. Soumaïla Cissé est décédé vendredi 25 décembre dernier en France des suites de la COVID-19. 6 personnes sont mises en cause pour atteinte à la sûreté de l'État, annonce un communiqué du procureur de la République publié hier. Elles ont été mises à la disposition du service d'investigation judiciaire de la Gendarmerie nationale. Parmi les personnes concernées figure le chroniqueur Aras Batch. Le point avec Mohamed Babakunta.
En plus du chroniqueur à radio Mohamed Youssouf Bachili, alias Arach Bach, 5 autres personnes sont citées dans le communiqué du procureur. Il s'agit de Mahamadou Kone, trésorier payeur général, Vital Robert Diop, directeur général des PMI Mali, Souleyman Kansai, receveur général du district, Sekou Traoré, secrétaire général de la présidence de la République et Aguibou Makital, directeur général adjoint de l'AGFO. Selon le procureur de la République, cette enquête a été ouverte suite à une dénonciation des services de sécurité. Elle se poursuivra et l'opinion sera tenue au courant de l'évolution, ajoute Mamoudou Kassogué. Rappelons que ces arrestations pour atteinte à la sûreté de l'État interviennent 4 mois après les derniers coups d'État enregistrés au Mali le 18 août dernier. Une transition politique est en cours depuis quelques mois. Elle devrait durer une année et demie selon la charte de la transition.
Plusieurs dirigeants du football malien sont sanctionnés depuis le 23 décembre 2020. La décision a été prise par la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT. La mesure concerne Dr Adama Sangaré, médecin en charge de l'équipe nationale et l'ensemble du staff médical. Ils sont accusés dans l'affaire de dopage visant les footballeurs Sékou Keïta et Mohamed Camara. La FEMAFOOT a également limogé jeudi 24 décembre dernier son secrétaire général Ibrahim Sangaré sans donner d'explication. C'était un papier signé Souri Ibrahim Meiga.
Cette suspension de l'ensemble du staff médical en charge de l'équipe nationale de football fait suite à l'accusation de dopage des internationaux maliens Sékou Keïta et Mohamed Camara. C'est le Red Bull Salzbourg, club des deux joueurs testés positifs lors d'un contrôle antidopage, qui a interpellé la Fédération malienne de football FEMAFOOT sur le sujet. C'est ainsi que la FEMAFOOT a annoncé avoir entrepris des investigations internes pour faire la lumière sur les responsabilités des uns et des autres, tout en rassurant sur sa pleine coopération avec l'UEFA. Les deux joueurs accusés de dopage rentraient d'un regroupement de 10 jours du 6 au 17 novembre 2020 selon la fédération. Ils ont joué 2 matchs dont un en Namibie. La FEMAFOOT a aussi limogé son secrétaire général Ibrahim Sangaré jeudi 24 décembre dernier. Cette décision a été prise par le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Le motif du limogeage n'est toujours pas connu.
La délinquance juvénile prend de l'ampleur dans le pays, regrette de nombreux observateurs. Ces derniers temps, les braquages opérés par des jeunes à main armée et les vols se sont multipliés à Bamako et à l'intérieur du pays. De l'avis de nombreux experts, la recrudescence de ces actes de banditisme conduisent de milliers de jeunes à la perdition. Où se situent donc les responsabilités du phénomène? Comment y faire face? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Khalifa Guetta.
Qui de la famille ou de la société est responsable de la délinquance actuelle des enfants? De nombreux jeunes rencontrés rejettent la faute sur leurs parents. Ils se disent abandonnés à leur propre sort.
Actuellement, nos parents n'ont pas de temps pour nous. Quand moi, mon père sort, c'est tard la nuit qu'il rentre. De ce fait, on fait ce qu'on veut, qu'on boit de l'alcool et plein d'autres choses.
Ni le gouvernement, ni nos parents ne s'occupent de notre éducation. Et à cause de la pauvreté, nous sommes obligés d'être des délinquants. Il m'arrive souvent de voler pour subvenir à mes besoins.
Cependant, de leur côté, certains parents estiment que tout enfant est l'image de sa famille. Pourtant, ces derniers rejettent également la faute sur l'avènement des nouvelles technologies qui dégradent, selon eux, l'éducation donnée aux enfants. Marie Toudjara, mère de famille.
Mais on ne peut rien faire dans ça. Les enfants, toujours, ils sont là à regarder les films. Dans ces films-là, les côtés positifs-là, il n'y en a pas beaucoup.
Les causes de la délinquance des jeunes sont multiples, affirment des psychologues. Ils estiment que la communication entre parents et enfants doit être au centre pour freiner le phénomène. Docteur Amadou Maïga, psychologue.
Tenir compte même du développement psychique de l'enfant, si c'est un enfant pathologique ou normal, et à partir de là-bas, c'est d'essayer de contacter les centres d'éducation et de rééducation, qui ne sont pas les solutions qui vont résoudre les problèmes, mais c'est la compréhension.
Pour des observateurs, les enfants sont l'avenir du Mali. De ce fait, leur assurer une éducation de qualité demeure une des plus belle chose.
27 décès et 383 nouveaux cas de COVID-19, c'est le bilan de la situation épidémiologique au Mali du 21 au 26 décembre 2020, selon le ministère de la Santé. Ces chiffres ont été annoncés alors que des mesures restrictives pour contrer la propagation de la maladie sont en vigueur depuis le 18 décembre 2020. Malgré ces dispositions, les gestes barrières sont moins respectés et les cérémonies de mariage et de baptême continuent de drainer de centaines de personnes. Moussa Malé Sissoko et Sita Sidibé ont fait un tour dans la ville de Bamako.
Bamako, les cérémonies de mariage ont été célébrées ce dimanche 27 décembre 2020 en grande pompe. Dans la matinée, la devanture des mairies et les espaces verts étaient bondés du monde. Dans les quartiers, sous les bâches, les invités se côtoient comme en période normale. Ils sont rares ceux qui portent le masque ou qui observent les mesures de protection contre la pandémie.
À chaque fois que je parte à un événement social, je porte un masque. Nous célébrons le mariage d'une nièce, mais nous ne portons pas de masque, car ce n'est pas le moment. Nous sommes venus à la mairie, le port de masque peut délabrer notre maquillage.
Ce relâchement dans l'application des gestes barrières lors des événements sociaux inquiète les médecins. Toutefois, ils invitent les autorités à suivre l'application des dispositions préventives prises lors du Conseil supérieur de la défense. Professeur Yakuba Toloba, responsable du deuxième centre de prise en charge des malades de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
Scientifiquement, ces rassemblements c'est déjà pour beaucoup pour la transmission de la maladie. Donc, nous avons proposé aux autorités de mettre en application ces mesures. J'attire l'attention des uns et des autres. En 3 mois, nous avons enregistré près de 40 décès.
Il faut rappeler que le gouvernement a exigé, dans ces nouvelles mesures, de limiter tous les rassemblements à 50 personnes, y compris les cérémonies de mariage, baptême et funérailles. Il a aussi exigé le port du masque dans les espaces publics.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Les échos de nos régions nous amènent aujourd'hui à Kourou où une petite fille de 6 ans a été décapitée ce lundi par un homme armé d'une machette. Selon des sources locales, la victime a été démembrée par son bourreau qui a pris la fuite. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour le retrouver. Nous accueillons à présent Mohamedou Touré pour le Grand Dialogue. Bonsoir Mohamedou.
Bonsoir Adama.
Vous allez parler de quoi ce soir?
D'élections. Le calendrier qui a été annoncé par les autorités de la transition est-il tenable? Et nos invités sont Amara Traoré de la CENI, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, et M. Djigiba Keïta du PPR, qui est membre du parti pour la Renaissance nationale Parena.
Merci et très bon débat. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Dans un instant, le magazine.